Allons maintenant méditer la parole de Dieu et vous invite à aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et au verset 11. Un texte que nous connaissons sans doute parfaitement, mais qu'il est bon encore de revisiter et peut-être d'avoir une lecture un peu différente. Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. » J'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici. Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à toi est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Okay. Merveilleuse parabole. Mais qui nous interroge quand même encore ce matin. Et moi je l'ai intitulé « Les deux fils perdus ». Et aussi les deux fils retrouvés. Alléluia. Les deux fils perdus. Alors, je ne dis pas Alléluia parce qu'ils étaient perdus, je dis surtout Alléluia parce qu'ils sont retrouvés. Je crois que c'est surtout cela. Il ne faut pas dire Alléluia pour n'importe quoi, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'ici, dans cette parabole, on pourrait se poser la question, qui s'identifie à qui ? C'est vrai que souvent j'ai prêché sur la première partie de cette parabole, le fils prodigue, tellement intéressant comme sujet d'évangélisation. Mais pour nous chrétiens, est-ce qu'il n'a pas une connotation pour nous? Est-ce qu'il ne veut pas nous dire quelque chose aussi? Oui. Et puis, il y a cette dernière partie où il y a le fils aîné. Ah, le fils aîné. Il nous interroge aussi. Quelque part. Et la question que je voudrais vous poser ce matin, qui est Dieu pour vous? Ne répondez pas, répondez dans votre cœur. Oui. On peut s'interroger à la lecture de ce texte, qui est Dieu pour nous, mais qui est Dieu pour moi? Quelle image avons-nous de Dieu aujourd'hui? Quelle image tu as de Dieu aujourd'hui dans ton cœur? Alors c'est vrai que j'entends des propos, j'allais dire, tellement différents au cours d'échanges et d'entretiens. Dans la religion, ce qui est important, c'est les valeurs qu'elle véhicule. On a tout dit. J'entends aussi, je crois qu'il existe une force au-dessus de moi, mais je ne crois pas que Dieu s'intéresse personnellement à moi. Oh. Ou encore, Dieu nous juge. Eh oui, Dieu nous condamne. Et puis, dans la plupart des religions, une idée domine. Ah, notre vie est écrite d'avance. Vous croyez pas, vous? Votre vie a été écrite d'avance? C'est vous qui l'écrivez, votre vie. Oui. Alors, je suis en train de me dire et de me poser la question, Dieu ne serait-il pas en train de tirer les ficelles et de faire de nous des marionnettes qu'il manipule à son gré? Dieu serait alors un manipulateur, un juge, une force cosmique, et donc nous serions au choix prisonniers de notre destin, puisque notre vie est déjà inscrite, alors mangeons, buvons, demain on verra bien. Peut-être nous nous sentons scrutés par Dieu. Il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je pêche. Il faut que je fasse le bien. Parce que si je fais le mal, et encore, quelle définition j'ai du mal? Quelle définition j'ai du bien? Ce qui peut être bien pour moi peut être mal pour quelqu'un d'autre. C'est compliqué, hein, vous ne trouvez pas? Très compliqué. Alors, peut-être qu'on se sent jugé ou abandonné. Alors, oui, Dieu. Dieu où j'ai mis des points d'interrogation. Questions sur Dieu. Vous avez des questions à poser à Dieu, vous? Ah, vous savez tout, vous? C'est bien, ça. Moi, je ne sais pas tout. Je pose toujours des questions à Dieu, moi. Tout le temps. Moi, je suis comme un gosse, vous savez. Vous savez, les enfants, pourquoi? Pourquoi? Quand vous avez répondu, pourquoi? Ah ben, pourquoi c'est comme ça? Ben, parce que c'est comme ça. Oui, alors, mais pourquoi c'est comme ça? Et ils insistent jusqu'à temps d'avoir une réponse, quoi. Hein. Eh oui. Et puis, l'autre question aussi embarrassante, c'est la question sur nous. Qui suis-je? Qui suis-je? Ça a rapport avec notre texte, ça. Hein. Est-ce que je suis dans la partie du haut du texte ou je suis dans la partie du bas? Oui. C'est important de se poser les questions. Où est-ce que je me situe dans le texte aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'en avons-nous fait de notre vie pour en être là? Même en tant que chrétien? Est-ce que notre vie, est-ce que ta vie a du sens? Est-ce que ta vie a certaines valeurs? Du poids? Et on s'aperçoit, malgré toutes les philosophies qui existent aujourd'hui, qu'elle est incapable de répondre à toutes ces questions. Pire encore, tout devient de plus en plus flou et compliqué. Bientôt, avec l'intelligence augmentée, vous allez voir, on va être des super humains. Mais quelle identité je vais avoir? Oui. Est-ce que je vais rester humain ou est-ce que je vais devenir machine? Oui, c'est pourquoi je repose la question, qui est Dieu pour nous aujourd'hui? Qui sommes-nous? Et puis je vais aller plus loin. Qui sommes-nous pour Dieu? Alors je ne sais pas si vous avez des réponses à tout ça. Je suis un poseur de questions qui nous amène à réfléchir, forcément, toujours. Et devant ces questions vertigineuses, hein, je le conçois, nous avons la chance, et j'ai mis cela entre guillemets quand même, et la chance inouïe de pouvoir nous tourner quand même vers Dieu et vers Jésus-Christ, ce que vous avez fait, j'espère. Vous allez dire, vous êtes en train de nous mettre un coup d'épée dans l'eau, là. Oui. Est-ce que je suis entièrement à Dieu et à Jésus-Christ? N'y a-t-il pas une part? Un jardin secret? Que j'ai gardé pour moi-même? Lorsque l'Église dit dans son langage théologique que Jésus est à la fois un vrai homme et un vrai Dieu. Oui, lorsque je lis la Bible et que je vois, je suis les traces, les pas de Jésus lorsqu'il était sur la terre, alors je me dis oui, il est vraiment homme. Mais je me dis parfois, il est vraiment un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire. Hors du commun. Vrai Dieu, en même temps Dieu. Alors là, j'ai du mal à définir tout cela. Mais en regardant et en relisant l'évangile de Jean comme nous le faisons en ce moment, alors je m'aperçois, oui, d'un seul coup, Jésus qui passe de l'état homme à l'état de Dieu. Waouh! Ouais. Cela, c'est important. Parce que c'est par Jésus que nous sommes éclairés de la réalité de Dieu, mais aussi de notre réalité personnelle. C'est cela qui est important. Jésus est le chemin qui nous conduit à Dieu, mais qui nous conduit aussi à nous-mêmes. Vous voyez, quand Jésus s'adresse à Thomas. Il y a des Thomas ici dans la salle. Peut-être vous vous ignorez. Et oui, Thomas qui dit, moi je ne crois que ce que je vois. Vous, vous croyez tout. Hein. Oui. Non, vous ne croyez pas tout, vous avez raison. Il ne faut pas tout croire. Jésus dit à Thomas, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Eh oui. C'est Jésus qui nous révèle le Père. On ne peut pas connaître Dieu comme cela. Vous voyez, quand je n'étais pas converti, je disais, il y a un être au-dessus de nous, sans doute. Mais alors, il faudra qu'il se montre un jour, quand même. Hein. Mais je ne savais pas qu'il s'était montré. Il a fallu qu'à l'âge de 18-19 ans, j'apprenne qu'il était venu jusqu'à nous. Alors, c'est vrai que lorsque nous avons le sentiment que nos repères vacillent, que nous ne savons plus très bien où nous en sommes, même en tant que chrétiens, c'est normal qu'on se pose la question, mais qui est Dieu ou que fait Dieu? Qui suis-je? Où j'en suis-je? Oui. Il faut que nous puissions nous remettre dans ce contexte, et j'espère que vous avez encore le texte en mémoire, malgré mes divagations, là, mais qui nous pose et qui nous interroge. Vous savez, au fur et à mesure que Jésus enseigne les disciples, et c'est bien de l'enseignement de Jésus qu'il est question ici dans cette parabole, eh bien, déjà, il enseigne, il guérit, et il attire à lui des hommes, des femmes, et on s'aperçoit souvent que ce sont ceux qui sont en marche, ceux qui sont exclus. Exclus par le pouvoir religieux, exclus par la politique de l'époque. Mais vous savez, aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé. Et là, parmi cette foule, parmi ces hommes, ces femmes, eh bien, il y a des gens qui sont méprisés. Il y a des gens qui sont humiliés. Puis, il y a un collecteur d'impôts. Alors lui, bien entendu, triplement rejeté parce que ben, il collabore avec l'ennemi, hein, et donc forcément, il n'est pas vu d'un bon œil, quoi. Hein, il n'est pas bien vu non plus religieusement. Il est considéré comme impur. Donc voilà, tous ces gens qui ont des situations un petit peu particulières. Hein. Et qui ne peuvent pas aller d'un côté, qui ne peuvent pas aller de l'autre, hein, qui se sentent prisonniers, rejetés. Eh oui. Alors, Jésus, au lieu de rejeter tous ces gens, il les accueille. Il les accueille autour de lui, les rejette pas. Il leur parle. Oui. Il les invite à partager un repas, signe vraiment d'un accueil spirituel. Alors, bien entendu, vous savez, tout ce que fait Jésus est sujet à critique. Et, bien entendu, les scribes, les pharisiens sont indignés de voir ce que Jésus peut faire et se mélanger à cette foule de gens qui sont méprisables, ce sont des petites gens, des gens de rien du tout, qui ne vaut pas le coup de s'intéresser, mais justement, Jésus s'intéresse à eux. Et c'est cela qui est merveilleux. Jésus s'intéresse à eux. Et c'est là le propos de l'Église aussi, s'intéresser aussi à ces gens-là. Oui. Alors aux uns et aux autres, aux pécheurs comme aux pharisiens, Jésus va raconter trois paraboles, trois illustrations, on pourrait dire comme de la bonne nouvelle, trois façons de nous dévoiler Dieu. Il va parler de la parabole de la brebis perdue, où là Jésus évoque un Dieu qui cherche les égarés et les blessés de la vie. Il va parler de la parabole de la pièce perdue. Et là, il nous parle d'un Dieu qui cherche ce qui est perdu. Et puis, il va nous parler de cette parabole des deux fils. Qu'est-ce que cela nous révèle? Cela révèle que Dieu nous aime sans condition. N'est-ce pas? Et c'est, le début de cette histoire résonne étrangement. Parce que le fils cadet, il annonce à son père, je suis un vrai papa, mais je me barre de la maison. Oh pardon, je quitte la maison. Le premier témoignage que j'ai rendu lorsque je me suis converti, c'est ce témoignage-là que j'ai rendu. Parce qu'un jour, je me suis sauvé de la maison. J'ai voulu faire ma vie tout seul. Parce que j'étais un bar. Ah, vous savez ce que c'est un bar?
Non, non.
Ah non, vous ne savez pas?
Non.
Un bon à rien. Bon, vous avez compris? Et donc, comme j'en avais marre d'entendre cela, eh bien, je me suis sauvé de la maison. Et je suis revenu. Voilà. Et donc, cette parabole résonne étrangement et personnellement dans ma propre vie. Oui. Lorsque ce cadet annonce à son père qu'il quitte le domicile familial, et puis qu'en plus il exige de surcroît la part qui lui revient. Comme on dit, il est un peu gonflé quand même. Hein. Parce que moi, quand je suis parti, je l'ai fait en catimini sans que personne me voie. Hein. Mais lui, tout de go, il dit, va voir son père, il dit, eh oh, donne-moi ma part d'héritage. Hein. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Posez la question. Ouais, que vous auriez fait? Ça vous est jamais arrivé? Un de vos enfants vous dit, je m'en vais. Vous savez, c'est dur, hein, quand... déjà, rien que pour des raisons déjà normales, parce que vos enfants vont aller faire des études à Nantes ou ailleurs, à Poitiers ou que sais-je, à Angers. Hein, c'est dur, nous, on a connu ça, hein, nos quatre enfants qui, successivement, sont partis les uns derrière les autres. Pour moi, c'était pas trop dur parce que je travaillais et puis parce que je suis un homme. Je suis fort, moi. Pensez donc. Oui, mais c'était pas la même chose pour mon épouse, tout ça. Elle a vécu cela difficilement. Et c'est toujours difficile, vous savez, dans un foyer. Quand les enfants quittent le nid protecteur, hein, il y a des inquiétudes qui sont là, qui se mettent, bien entendu. Et c'est vrai qu'on a raison de s'inquiéter, croyez-moi. Par expérience. Oui. Alors c'est vrai que demander l'héritage, une partie de son héritage, c'était contraire aux us et aux usages de l'époque. Hein. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, hein, si à mon père je lui avais demandé, dis donc, je m'en vais de la maison, est-ce que tu peux me donner un petit peu d'argent pour que je puisse aller vivre? Il m'aurait dit, non mais oh. Il m'aurait mis un coup de pied dans les fesses et puis il m'aurait dit, va travailler. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Hein. Le lendemain, j'étais au boulot, quoi. Hein, parce qu'il fallait que je gagne ma vie quand même pour manger. Hein. Donc. Mais à cette époque, il y avait du travail. Donc, c'était facile. Et c'est vrai que la loi G n'autorise pas le partage de l'héritage avant la mort du père, et sous des conditions bien strictes. Il faut que le père soit gravement malade ou menacé. Il doit pouvoir jouir de ses biens jusqu'à sa mort. Et là, toutes les règles juridiques étaient enfreintes. Et même le père accorde. J'ai dit, mais il est fou, le père. C'est un faible père. Il n'a pas d'autorité, le père, là. Ah oui. Ah oui, quand on s'appelle père, on a d'autorité, quoi. Et là, il accorde. C'est incompréhensible. Mais est-ce que vous comprenez toujours Dieu, vous ? Fait des choses que nous ne comprenons pas. Mais, et ainsi le père, qui devait refuser, eh bien, a laissé repartir son fils, et il lui a donné la moitié de ses richesses. Le père le pouvait, le père le devait, mais il ne le fait pas. Il ne s'oppose donc pas à son fils, et il lui donne même les moyens de son autonomie. Il y a une leçon à tirer de cela. Dieu ne contraint personne. Comme je l'ai dit au début, Dieu n'est pas ce marionnettiste qui manipule, qui juge, qui sanctionne. Il n'est ni l'un ni l'autre. Parce que Dieu nous laisse libres, mes frères et sœurs. C'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. Ne l'oublions pas. Nous sommes libres. Il me laisse libre, libre de venir vers lui. Libre de le quitter, libre de le suivre, libre de lui tourner le dos. Et nous nous demandons, c'est vrai aujourd'hui, pourquoi notre monde est ainsi. Pourquoi notre vie aussi est aussi décevante. Pourquoi Dieu semble-t-il tout laisser faire. Vous avez une réponse à cela? Vous êtes muet?
Non.
Vous avez une réponse à cela? Pourquoi Dieu laisse tout faire? Un mot. Dieu nous aime. Oui, trois. Alors je vais dire amour. Oui. Oui, Dieu nous aime. Il nous laisse libres de nos choix. Vous n'avez pas été contraint et forcé pour venir ce matin. Ça a été de votre choix. Quand vous faites quelque chose à la maison, c'est de votre choix. Dieu ne vous interdit pas. Par contre, il peut mettre des signaux. Attention. Danger. Mais libre à vous de passer dans un sens interdit. Libre à vous de rouler à 150 à l'heure. Eh oui. Et je pourrais, j'en passe. Et des meilleurs. Parce que nous, parents, nous le savons bien. Il faut vraiment les aimer, nos enfants. Et nous les aimons vraiment lorsque un papa et une maman décident de laisser partir sa fille, son fils. Son fils, c'est moins inquiétant, un fils. Mais laisser partir une fille, waouh, c'est pas facile. Hein. Vous savez, quand on a laissé partir notre aînée, Rachel, on avait beaucoup d'inquiétude, hein. Énormément d'inquiétude. Et nous avions raison d'être inquiets. Mais Dieu, Dieu l'a préservé. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Oui. Oui. Nous les aimons, nos enfants. Et là, ici, il y a de l'amour dans cette parabole. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans cette parabole. Même si c'est une situation qui est difficile. Et... oui, il faut beaucoup aimer ses enfants pour les laisser se heurter à la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie n'est pas facile. Et nous aurions tendance à les protéger et les surprotéger. Oui. Et puis, quelle est la seconde bonne nouvelle, j'allais dire, dans ce texte? Alors, Dieu laisse partir ses enfants. Mais ils guettent leur retour. Et je pense, pour l'avoir vécu, bien parce que moi j'étais un fugitif pendant un moment, bien quand je suis revenu à la maison, maman, même avant que je rentre à la maison, eh bien elle me cherchait partout parce qu'elle se doutait que j'étais certainement pas très loin de la maison. Je me cachais dans les ateliers de mon père. Et je voyais maman qui... j'entendais maman qui appelait, et qui m'appelait, et qui passait pas loin de moi. Elle était des fois même pas 50 cm de moi, et elle m'appelait, et je serrais les dents, pour ne pas lui dire « je suis là ». Mon orgueil était tellement prononcé. Je ne céderai pas. Et pourtant, devant l'appel déchirant de maman, j'aurais cédé, mais à cause de mon père, je ne voulais pas céder. Cela, ça a duré des jours et des jours. Oui. Oui. Maman guettait mon retour, tous les jours. Et certainement, tous les jours, elle pleurait. Il ne nous est pas parlé de la maman hein, dans ce texte-là. Mais c'est aussi une réalité. Oui. Dieu guette notre retour. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Dieu est impassible devant tous les événements que nous pouvons traverser. Ici, le Dieu Jésus-Christ s'inquiète pour nous. Il s'inquiète pour toi. Il s'attriste pour toi. Oui. Il s'attriste lorsque tu te perds dans certaines choses. Mais il laisse faire. Il se réjouit lorsque tu reviens vers lui. Il ne réagit pas non plus comme un monarque lointain, ni comme un comptable, mais comme un père et une mère. Il espère. Il s'engage. Il attend. Dans la parabole, le père voit de loin son fils. Il le voit sur le chemin. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Je me souviens ce soir-là, au moment pour la 1e fois, on revenait sur le lieu de ma cachette. Hein. Sans doute est-ce qu'elle avait cette intuition ou cet instinct de maman. Et là, elle me dit, reviens à la maison, papa te pardonne. Ça a déchiré mon cœur, là. Et je suis sorti de ma cachette et je suis tombé dans les bras de ma maman. Mais après, il a fallu du temps. Dans cette soirée, pour que je puisse aller jusqu'à la maison. Parce que mon père ne m'attendait pas, il n'est pas couru vers moi. Il était dans sa chambre, il était dans son lit. Parce que c'était déjà tard le soir. Et là, quand maman m'a emmené, elle m'a emmené par la main presque de force. Parce que je n'étais pas très fier. Je suis rentré dans la chambre. Et là, mon père m'a pris dans ses bras. Je crois que c'était une des rares fois que mon père me prenait dans ses bras. Il savait plutôt se servir du ceinturon et de la verge que de tendre des bras d'amour. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, nos relations ont changé totalement. Et dans cette parabole, le père voit de loin son fils sur le chemin du retour. Il se précipite vers lui, il lui ouvre ses bras et sa maison, et il lui fait mettre l'anneau, la robe, les sandales. On fait la fête, quoi. On fait la fête. Eh oui, c'est merveilleux tout cela. La fête. Alors c'est vrai que là aussi, ce n'était pas conforme à la tradition. Ce fils qui revient, mais il faut lui montrer quand même que ce qu'il a fait, c'était une erreur, qu'il ne devait pas faire cela. Il aurait dû mettre ce fils, j'allais dire, à l'écart, ou lui dire, eh bien maintenant tu vas rembourser tes dettes. Et pourtant, il dit, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Oui, il aurait pu le sermonner, mais là, il n'y a aucun sermon, là. Il n'y a aucune réprimande. Mais, oui, il aurait dû le sermonner. Il ne le fait pas. Non seulement il ne le met pas à l'écart, non seulement il ne le punit pas, mais il l'accueille et ils font la fête. Oh, C'est merveilleux, cela. Sans doute qu'il ne s'attendait pas à cela, ce fils. Il savait ce qu'il avait fait. Et tout penaud qu'il revient. Mais j'aimerais vous dire une chose, mes frères et sœurs. C'est que Dieu n'est pas le Dieu de la dette. Il est le Dieu de la grâce. Et il sera toujours le Dieu de la grâce. Quoi que nous ayons fait, mes frères et sœurs. Vous savez, il y a toujours une seconde chance. Nous, parfois, nous les humains, nous avons tendance à faire payer le mal que nous avons fait. Nous avons du mal à pardonner. Et quand je dis pardonner, c'est vraiment pardonner. C'est vraiment oublier. C'est vraiment effacer. Alors c'est vrai que les choses, quand elles existent, mais lorsque le coupable se repent, lorsque le coupable s'humilie, est-ce que nous devons lui tenir rigueur à vie? Je pose la question ce matin. Je vous pose la question ce matin. Si quelqu'un t'a fait du mal, beaucoup de mal. Oui, Dieu est celui qui panse les plaies. Et si tu as une plaie, Dieu est capable de la guérir. Ça n'effacera peut-être pas la cicatrice. Mais Dieu guérira ta plaie. Il pansera ton cœur. Il pansera ton âme. Il pansera ton esprit. Mais tu dois entrer dans le pardon. Dans le pardon total. Tu dois entrer dans le pardon. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la dette. Si Dieu pardonne, qui es-tu, toi, pour ne pas pardonner? Même Église, qui es-tu, toi, pour ne pas pardonner? Oui. Pense au criminel sur la croix, au brigand sur la croix. Dieu lui dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Auriez-vous accueilli un brigand à votre table? Auriez-vous accueilli un brigand ici sur cette chaise là qui est vide? Qui a tué? Qui a volé? Mais non, nous sommes les fils aînés. Nous sommes bien propres sur nous. Nous sommes corrects. Nous sommes bien. Parce que l'aîné, il n'a pas compris si le fils cadet n'avait pas compris l'amour du père. Mais l'aîné non plus n'avait pas compris l'amour du père. Ben oui. Il était né dans la maison, il vivait les choses de la maison. Il était, comme on dit, le bon élève. Il était l'enfant modèle. Il était le croyant pieux. Il était le bon citoyen. Celui qui respecte les règles, qui se dévoue, qui se sacrifie. Mais lorsqu'il y a une petite chose de travers, alors il s'indigne. Ah non, on ne peut pas traiter mon frère comme moi, c'est pas possible. On ne peut pas me traiter d'égal à égal. Je suis meilleur que lui. Lui, il a tout dépensé, mais moi, j'ai travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais le fils avant, il avait fait l'autre. Hein. Oui, mais bon. Parce que lui, là, ce fils aîné, là, il est dans la logique du devoir accompli. Je fais ma prière tous les matins. Je lis ma Bible tous les jours. Je vais au culte, je vais aux réunions. J'ai fait tout cela, mais moi je suis méritant. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Ah. Oui, il est dans le devoir et dans le mérite, parce qu'il fait tout bien, cet homme. Il a de la chance, hein, moi j'arrive pas à faire tout bien. Vous y arrivez-vous? Non, ça va, alors. On est d'accord. Mais voilà. Mais j'ai quand même envie de dire qu'il est peut-être aussi notre reflet. Il est peut-être notre face cachée. Il est peut-être notre sosie, quelque part. Il est le reflet de ces enfants qui croient pouvoir mériter, par exemple, l'amour de leurs parents. Eh oui. Il est le reflet de ces parents qui estiment que leurs rejetons leur doivent quelque chose. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Eh oui. Eh oui. Il est le reflet aussi de ces croyants qui pensent qu'ils sont plus près de Dieu que les autres. Il est le reflet de ces citoyens qui se croient meilleurs citoyens que les autres et qui mangent bio, qui circulent en vélo électrique. Et c'est pourquoi je dis ce matin, mes frères, et je termine là, mes sœurs, je termine là ma parabole qui s'appelait, au lieu de s'appeler la parabole du fils prodigue, je l'appelle les deux fils perdus et les deux fils retrouvés. Perdus car tous deux se sont égarés, loin de l'amour du Père, loin de la grâce. Retrouvés car l'un comme l'autre, le Père leur a dit son amour. Mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie, dit-il à son fils cadet, et à l'autre. Il lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Ça, il ne s'en était pas rendu compte jusqu'à ce jour-là. Il a fallu que le Père lui dise. Et des fois, il y a des choses que Dieu doit nous dire. Et là, le Père a eu le courage de lui dire cela. Et j'ai envie de dire, quelle que soit notre personnalité, nous avons tous, les uns et les autres, quoi que nous ayons fait, une place dans la maison du Père. Et par conséquent aussi une place dans l'Église. Nous pouvons donc faire nos choix de vie, les assumer sans jalousie, sans ressentiment, et revenir nous réjouir auprès de Dieu, vers nos frères de chair et d'esprit. Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Amen. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour qui est inconditionnel. Nous, nous faisons des choix qui ne sont pas toujours très heureux. Nous avons des préférences. Nous aimons plus ou moins, selon le cas. Seigneur, cette parabole m'interpelle toujours, parce qu'elle me montre la grandeur de l'amour d'un Père qui est amour, amour pour ses enfants, que même s'il s'éloigne, même s'il faute, même si pour nous les fautes sont inacceptables, toi tu pardonnes. Oui, cela n'aurait jamais dû avoir lieu, sans doute. Mais toi, tu es un Dieu de pardon. Seigneur, tu veux nous donner cet esprit de pardon, de le vivre vraiment, et que ça soit une victoire pour chacun de nous. Seigneur, je te remets cette assemblée.
Amen.
Je te demande de la bénir. Que nous ne restions pas des auditeurs oublieux, de cette parole, et si quelqu'un a été interpellé ce matin à travers ce message, qu'il en soit béni, Seigneur, et que véritablement ton esprit au milieu de nous fasse son œuvre en chacun. Que toute la gloire t'en revienne, Seigneur, en ton saint nom Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia.